Ce matin, on continue série Changement, Romains 12, l'Épître aux Romains. Si jamais vous avez jamais pris le temps de lire l'Épître aux Romains, c'est vraiment un encouragement que je vous lance. C'est une épître, c'est sûr, qui est un petit peu plus demandante au niveau attention quand on la lit, parce que c'est quand même un langage soutenu. Il y a des thèmes qui sont quand même un petit peu plus poussés, qui sont touchés dedans. Mais c'est une des épîtres que l'on retrouve dans le Nouveau Testament, qui a le plus influencé, qui a eu un des plus grands impacts au niveau de la chrétienté à travers les âges. Et prenez le temps de relire l'Épître aux Romains. C'est vraiment intéressant de se rapprocher, entre guillemets, de ce qui est la base de notre foi, qui est l'origine de nos croyances, l'origine de notre appartenance, entre guillemets, à Christ et à Dieu. Et prenez le temps de vous replonger dans ce texte-là. C'est vraiment très intéressant. Et pour nous, pour l'équipe pastorale, on s'est dit qu'on allait se limiter au chapitre 12 parce qu'il y en avait déjà beaucoup. Il y a beaucoup de perles à l'intérieur de ce chapitre-là, des choses vraiment intéressantes à regarder. Et avant de commencer, juste une petite... j'ai lu beaucoup sur le changement, étant donné qu'on avait cette série-là, et j'ai trouvé cette citation de Benson qui disait ceci: « Très souvent, un changement de soi est plus nécessaire qu'un changement de situation. » Puis, si on est honnête, vous et moi, une des choses qu'on demande souvent lorsque ça va pas, c'est de changer les choses extérieures. Hein? Cette semaine, quand vous êtes présenté au bureau, vous n'avez pas dit à Seigneur, au travail, ça marche pas, change-moi. En général, on va prier, Seigneur, change mes collègues, change mon bureau, change mon espace de travail, change mon boss, ou change deux boss, dépendamment de comment ça se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que souvent, le changement qu'on veut, c'est un changement qui est externe à nous? C'est-à-dire qui ne nous implique pas directement, parce qu'on a l'impression que la source de notre plaisir, la source de notre bonheur, la source de notre bénédiction va prendre place seulement si les circonstances autour de nous, les situations qui nous environnent, les personnes autour de nous, nos familles, les gens qui nous sont proches, si elles changent, alors on va être bien. Mais en fait, la réalité, c'est que le changement de soi est une des clés du bonheur, de l'accomplissement, d'une partie de la vie chrétienne. Et je crois que c'est justement le but de cette série-là, de nous amener à prendre conscience, à réaliser à quel point est-ce qu'il y a des choses dans nos vies que Dieu veut opérer des changements, à quel point est-ce que Dieu veut changer certaines situations, certaines circonstances. Et si ce matin, tu t'es présenté ici en te disant « Ah, 2019, j'aimerais que ce soit relax, confortable, pas trop de changements », j'aimerais te dire que peut-être ça serait mieux que tu sortes ce matin. Non, c'est pas vrai. Mais la réalité, c'est que je crois que 2019 va être bien si vous et moi, on est prêts à rentrer justement dans ce changement-là. Être prêts à justement faire face à nous-mêmes, faire face à qui nous sommes et laisser Dieu apporter un changement. J'aimerais ce matin, on va lire en fin de compte la portion du chapitre 12 qui se limite au verset 2. Et c'est très simple, un verset qu'on a beaucoup entendu, qu'on a souvent lorsqu'on s'est approché de Dieu, on a eu plusieurs interprétations de ce verset-là. Et ce matin, on va l'étudier ensemble si vous voulez bien. Romains chapitre 12, verset 2. Ça dit ceci: « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ça, c'est un texte qui m'a toujours challengé personnellement. Puis quand on le lit ce matin ensemble, chacun d'entre nous, à la première lecture, on a comme déjà un feeling là, de se dire « Ouf, ça risque d'être compliqué sur certains aspects. » Ce matin, j'aimerais qu'on oublie, chacun d'entre nous, tout ce qu'on a pu voir de ce verset-là et qu'on puisse l'étudier ensemble, en fait, qu'on puisse prendre le temps de le lire pour ce qu'il est, pour ce qu'il veut nous apporter pour cette nouvelle année. Et puis, étant donné que c'est mon premier message de 2019, je vais rentrer dedans en vous parlant de l'année qui s'en vient. Après ça, j'en reparlerai plus de l'année qui s'en vient. On sera entamé. Mais ce matin, le message a vraiment une portion qui est spécifique pour la prochaine année. Dans ce texte-là, il y a une des parties d'abord sur laquelle je veux m'arrêter qui dit: discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et la raison pour laquelle je veux m'arrêter là-dessus juste avant d'aller plus loin dans l'étude de ce texte, c'est que s'il y a une des choses que vous et moi, on a vraiment à cœur pour 2019, puis je prends pour acquis que c'est vrai pour vous, en tout cas pour moi ça l'est, une des choses que je rêve pour ma vie, pour ma famille, pour mes enfants, c'est qu'en 2019, on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu pour nos plans familiaux, qu'on puisse avoir le discernement pour la volonté de Dieu pour nos orientations professionnelles, ministérielles, le discernement sur ce que Dieu veut pour nous pour l'éducation de nos enfants, ce que Dieu veut pour nous pour notre implication dans l'Église, ce que Dieu veut pour nous pour nos aspects financiers. Ce que Dieu a comme plan pour ma famille, ça c'est vraiment ce que je souhaite pour 2019. Essayer d'être capable de rentrer dedans, puis d'avoir une pleine certitude de ce que Dieu a comme plan pour moi. Et le texte ici, ça nous dit qu'il est possible de discerner quelle est la volonté de Dieu, de discerner ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Savez-vous quoi? Souvent, quand on arrive et puis on traverse toute une année, on se rend compte qu'on arrive à la fin de l'année avec un sac à dos pas mal plein de toutes sortes de choses qu'on n'avait pas besoin. Puis je ne parle pas de matériel ici, je ne parle pas de possession. Mais dans la semaine, il y a quelqu'un qui nous dit « tu devrais essayer ça, tu devrais faire ça », puis là, hop, on met tout ça dans notre pack-sac. Puis on arrive à la fin de l'année, là, à genoux. L'année, elle a été difficile. C'était lourd, il y avait tellement de choses à porter, j'ai eu tellement de responsabilités, tellement de choses qui sont là. Puis le pack-sac, il est gigantesque. Le texte ici, il nous dit « il est possible de traverser 2019, d'avoir ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait, d'avoir un sac à dos restreint parce qu'on a seulement pris sur nos épaules la volonté de Dieu. Ce qui est agréable, bon et parfait. On ne s'est pas embarrassé du superflu. On ne s'est pas embarrassé de ce qui va manger notre énergie. On ne s'est pas embarrassé de choses qui pouvaient nuire à notre vie. Puis, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que moi, en 2019, j'aimerais pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu? Amen. Puis je crois que c'est ce qu'on veut tous, en fait. C'est pour ça qu'on vient le dimanche matin, c'est pour ça qu'on rentre dans la louange, on prend un temps avec Dieu, c'est pour ça que dans la semaine, on prend le temps d'étudier la parole, de prier. Pourquoi? Pour essayer de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Le verset 2 nous donne la clé. Le verset 2 nous donne la réponse à cette question-là. Si tu t'es posé comme question toute ta vie, comment faire pour discerner la volonté de Dieu pour ma vie, le verset 2 nous donne la réponse. On n'aura même plus besoin de venir le dimanche matin. Non, c'est pas vrai. On n'aura plus besoin de se poser de questions. Il nous donne la clé pour ça. La suite dit ceci. En fait, ce qui précède, le discernement, ça dit ceci. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner. L'apôtre Paul est en train de nous dire, un des endroits où Dieu veut opérer un changement dans ta vie, et c'est rarement l'endroit où, dans le monde chrétien, on a mis l'emphase. L'apôtre Paul nous dit, l'endroit que Dieu veut changer pour toi, pour 2019, la chose que Dieu veut changer pour toi en 2019, pour que tu puisses discerner ce qui est bon, agréable et parfait, pour que tu aies le discernement sur la volonté de Dieu, ce que Dieu veut changer, c'est ton intelligence. What? Mon intelligence? Quand on pense à la vie chrétienne, quand on pense à l'Église, quand on pense à la religion, quand on pense à la foi, on pense à tout sauf à l'intelligence. C'est vrai, hein? Très honnête. On pense aux gens qui sont mystiques, on pense aux personnes qui sont un petit peu, ouais, je vais dire des grands mots, mais flyées, tu sais, on a l'impression qu'ils ont la tête dans les nuages, mais qu'ils n'ont jamais les pieds sur terre. Des personnes qui sont prêtes à croire et à faire confiance, des personnes qui n'ont pas besoin d'user de sagesse, de discernement, parce qu'ils ont la foi en tout, puis que Dieu prendra soin. Est-ce que vous me suivez? Puis souvent, on a mis les deux choses en opposition. Mais l'apôtre Paul, il nous dit, si vous voulez comprendre la volonté de Dieu, le plan parfait de Dieu, si vous voulez même rentrer dans tout ce qui est l'aspect miraculeux, l'aspect imprévisible, l'aspect par la foi, il faut que vous usiez de discernement dans votre intelligence. Ce que Dieu veut, c'est renouveler notre intelligence. C'est la clé pour vous et pour moi pour rentrer en 2019 dans les plans seulement de Dieu et non d'engager un pack-sac gros de même à la fin de l'année, de se retrouver sur les rotules, puis de dire « l'année a été difficile ». Des fois, il y a des impondérables, des fois, il y a des circonstances, des épreuves, des choses comme ça. Mais c'est déjà suffisant à porter, qu'on n'a pas besoin de rajouter tout ce qui est inutile pour nous, pour l'année. Amen. Écoutez bien, ce texte-là, le mot qui parle de « soyez transformés », le mot « soyez transformés » dans le grec, c'est un mot qui est impressionnant de caractère. Le mot « soyez transformés », c'est « métamorphose ». En gros, si on reprend le texte, ça dit « ce que je veux, c'est que vous soyez métamorphosés dans votre intelligence. Je veux apporter une métamorphose dans votre intelligence. » Et le mot « métamorphose », si on prend la définition du mot, c'est un changement de forme, de nature ou de structure, tel que l'objet, la chose n'est plus reconnaissable. En quelque sorte, il dit, anciennement, tu avais une façon de penser, une façon de réfléchir, une façon d'agir, une façon de réagir avec tes émotions, une façon d'être. Et ce que Dieu veut maintenant, c'est métamorphoser cette intelligence-là pour que tu sois méconnaissable. Au point que les gens autour de toi, quand ils vont t'entendre parler au travail, au point que ta famille, quand elle va devoir réagir dans la maison, elle dise, mais voyons donc, y a-tu quelqu'un qui l'a transformé? C'est plus le même. C'est une métamorphose de notre intelligence. La façon dont on pensait auparavant, la façon dont on agissait auparavant, n'existe plus. Et on passe à une façon nouvelle de penser, de réagir, de réfléchir, de prendre nos décisions. Tout a changé complètement. Une métamorphose au point tel qu'on ne reconnaît plus la personne. Étant donné que je sais que vous êtes plus visuel qu'auditif, une image vaut toujours mille mots. La meilleure image de la métamorphose, c'est la chenille. Vous et moi, en fait, avant de connaître Christ, on était une chenille. Amen. Bon, d'accord. Pour ceux qui aiment les chenilles. Et le jour où on a rencontré Christ, et le jour où Dieu commence à venir, à travailler nos vies, le jour où on laisse à Dieu la place à l'intérieur de nous, alors Dieu nous transforme en papillons. Amen. Ah, il y a plus de amen normalement en papillon, non? C'est... L'image est un petit peu enfantine. Mais c'est exactement ça que Dieu dit dans ce texte-là. Il dit, anciennement, tu réfléchissais comme une chenille. Tu étais au sol, tu prenais des décisions très... un petit peu intuitive, tu fais... Et ensuite de ça, tu survoles tout le reste. Le jour où Dieu renouvelle ton intelligence, tu es sur le haut. On prend pas les décisions de la même façon quand on a pris du recul. On prend pas les décisions de la même façon lorsque Dieu a renouvelé notre intelligence. On a une vision différente. On change notre façon d'être. Puis si jamais vous auriez pas su que le papillon, on vous présente un papillon, puis qu'on vous dit « Hey, ça c'est un animal », tu dis « Ah ouais, il est extraordinaire ». Mais qu'on te dit « Hey, c'était ça avant », tu fais comme « Non, tu me niaises, c'est pas vrai ». Non, non, je te promets, c'était une chenille avant, puis un jour, c'est devenu un papillon. Puis là, tu fais comme, non, c'est impossible. C'est comme ça que les gens devraient nous percevoir. Lorsque Dieu a renouvelé notre intelligence, lorsque Dieu a changé notre façon de penser. Anciennement, les gens nous connaissaient d'une certaine manière, et le jour où Dieu est venu accomplir un changement, une transformation dans nos pensées, dans nos vies, alors les gens sont étourdis, émerveillés, un petit peu comme déstabilisés de voir comment ça se fait que maintenant, ils réfléchissent de même. Comment ça se fait que maintenant il est comme ça? Pour vous faire voir à quel point est-ce que c'est tellement vrai que Dieu opère un changement dans nos pensées, dans notre façon d'être, dans notre façon même de parler, on retrouve un exemple qui est flagrant. On peut switcher suivant de diapo et aller à Actes 4, chapitre 13. On retrouve un texte dans le chapitre de Actes 4, verset 13. C'est le premier discours que Pierre va faire pour l'évangélisation. Pierre va faire un discours incroyable, les foules sont touchées, les gens sont comme, hey, voyons donc, t'as vu l'éloquence, t'as vu le charisme qu'il a, t'as vu comment est-ce que c'est impressionnant, puis les vérités qui sont sorties de sa bouche, tout le monde est comme bouche bée devant lui, les gens vont même se convertir par milliers, les gens vont donner leur vie à Jésus parce que Pierre et Jean vont commencer à partager avec audace, avec assurance, puis tout le monde se dit, mais oui, mais ces gars-là, c'était des gars charismatiques, c'est normal. Non, 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 écoutez bien ce que ça dit. En voyant la hardiesse ou l'assurance de Pierre et de Jean, sachant aussi qu'ils étaient des hommes sans lettres, illettrés. Dans certains textes, c'est traduit comme des idiots. C'est comme ça que les gens les connaissaient. Tous s'en étonnaient. Et ils reconnaissaient bien qu'ils avaient été avec Jésus. Imaginez-vous que Pierre et Jean, quand ils se promenaient dans la rue, là, nous on a une image de Pierre et Jean, là, d'accord? C'est comme les disciples de Jésus, tu sais, ceux qui ont vu les miracles et tout ça. Mais aux yeux des gens, ceux qui les ont connus avant qu'ils soient avec Jésus, quand ils se promenaient dans la rue, puis ils se promenaient, ils disaient, « Hé, la gagne d'idiot. » Ça nous change notre perspective, hein? On se dit, ouais, « Mais non, ça se peut pas que les gens pensaient ça, des disciples, c'était des gens bien. » Non, non, non. Les disciples, aux yeux des gens, c'était des illettrés. Ils n'avaient jamais été à l'école, ils savaient rien, ils n'avaient pas eu d'éducation. Des gars qui travaillaient sur les bateaux, qui nettoyaient des poissons le soir, qui étaient pêcheurs. Puis les gens le voyaient comme des idiots. Des illettrés. Textuellement, certaines versions de Bible le traduisent directement comme « les gens savaient qu'ils étaient des idiots ». Puis ça m'a frappé, je me suis dit hey, « imagine-toi que quelqu'un un jour écrit un livre sur, je ne sais pas, l'équipe de Mosaïque, puis que pour nous définir, dit « anciennement, avant qu'il rencontre Jésus, Jérémy Vitrano était un idiot ». Me semble, on pourrait changer la version, s'il vous plaît. Mais savez-vous ce que ça m'a témoigné quand j'ai lu ce texte-là? C'est de me dire qu'il y a eu vraiment un changement aux yeux des gens. Les gens voyaient une chenille, et après ça, quand ils ont fini le ministère terrestre avec Jésus, Dieu leur a changé, transformé leur intelligence. Puis là, ce matin, attendez, on ne va pas tous avoir un cul gigantesque à la fin parce que Dieu a changé notre intelligence, puis on ne va tous pas finir en étant maths sup et tout ça. C'est pas ça mon but. C'est pas ça mon point. Mon point est que Dieu change notre façon de penser, change notre caractère, change notre façon de réfléchir, notre façon d'apprécier les choses. Il change notre intelligence pour que vous et moi, on puisse discerner quelle est sa volonté. Et c'est ça qui frappait les gens. Anciennement, Pierre et Jean étaient peut-être pas des idiots sur le point de vue mathématique, mais peut-être par rapport aux choses spirituelles, par rapport à leur engagement dans la foi. Puis là, ils se disent, hey, non, attends, ces gars-là, ils ont compris, ils ont saisi quelque chose au niveau de la foi, au niveau de la spiritualité, mais ils ont compris aussi des choses au niveau de la prise en charge des gens. Ça nous dit qu'ils vont commencer à prendre soin des pauvres, prendre soin des personnes qui sont autour parce que leur intelligence avait été renouvelée. Ce matin, Dieu veut opérer un changement dans ta vie. Dieu veut faire une métamorphose dans ta vie. Vous savez, il y a une expression qu'on ne peut pas très bien traduire en français. C'est une expression anglaise, en fait, qui dit « from the inside out ». C'est quelque chose, le changement que Dieu veut faire, c'est un changement qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Souvent, nous, on veut changer l'extérieur, on veut changer tout ce qui paraît, on veut changer nos attitudes, il faudrait qu'on change nos caractères, nos choses qu'on fait. Mais ce que Dieu veut faire, c'est un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Il veut changer notre façon de réfléchir, notre façon d'apprécier, notre façon d'être gracieux, notre façon de pardonner. Il veut changer notre intelligence de l'intérieur pour qu'ensuite de ça, ça se manifeste de l'extérieur. C'est ça que Dieu veut opérer. C'est ça que Dieu veut faire. Étant donné que je sais que vous aimez quand on vous fait des confidences et puis qu'on vous montre nos faiblesses, j'ai décidé ce matin de vous montrer une de mes faiblesses. Alors, cette semaine, j'ai joué au soccer. Et une des raisons pour laquelle je ne jouais plus au soccer depuis plusieurs années, c'est parce que, quelquefois, il arrive que mon caractère, très bon, ressortent. Et cette semaine, j'ai été confronté à quelque chose qui, depuis des années, n'était pas là. C'est le fait de réfléchir comme mon ancienne nature et de réagir comme mon ancienne nature. Et j'en suis pas fier, mais bon, ça fait du bien, mais c'est pas bien, d'accord? Mais ça m'a fait réaliser une chose, c'est à quel point est-ce que Dieu a changé ma façon de penser? À quel point est-ce que je suis plus le même? Anciennement, j'aurais pas réfléchi, j'aurais pas analysé, j'aurais pas pris le temps de penser à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, Dieu a changé mon caractère, il a changé mes pensées, il a changé mon intelligence, ce qui fait en sorte que je peux plus prendre pour acquis le moment où je perds les pédales, parce que je le sais qu'il y a quelque chose qui est pas normal, qui est pas bon, que Dieu veut prendre le contrôle de ma vie. C'est pareil lorsqu'on est dans nos familles, dans nos maisons. Lorsqu'on manque dans nos attitudes, lorsqu'on manque dans notre façon de faire parce qu'on n'a pas réagi puis qu'on a été sous l'impulsion, lorsqu'on a laissé Dieu travailler nos intelligences, on ne peut pas prendre ça pour acquis. On ne peut pas penser à la légère là-dessus. Pourquoi? Parce que Dieu est intéressé à un changement de l'intérieur vers l'extérieur. Dernièrement, on faisait le ménage de certaines affaires en bas avec les enfants. Puis en sortant une boîte de carton, il y a une photo qui est tombée. Puis c'est une photo de moi dans mon jeune temps. Je devais avoir 19 ans, enfin que ça fait 3-4 ans à peu près. C'est la première photo que je prenais avec ma voiture. J'avais une voiture collection à l'époque, une coccinelle, une vraie. Et puis j'avais un ami qui avait une voiture aussi. Puis on s'était mis nos deux voitures stationnées devant une petite forêt. Puis il y avait quelqu'un qui nous avait pris en photo. Puis ça faisait, je ne savais pas combien d'années, je n'avais pas vu cette photo-là. Elle tombe, puis les enfants sont comme, « Hey, papa, waouh, ouais, la voiture, ouais, ton ami, nanana. » Les enfants, eux, regardaient quelque chose qui était physique, matériel. Et moi, quand j'ai vu cette photo-là, la seule chose que ça me rappelait, c'est mon intelligence que j'avais à l'époque. À quel point est-ce que j'étais complètement à côté de la traque? Les décisions étaient complètement faussées, mensonges, mauvaises attitudes, toutes sortes de choses. Puis eux voyaient des choses physiques, mais moi, j'avais juste ce qui se passait dans ma tête. À quel point est-ce que Dieu n'avait pas métamorphosé mon intelligence? Aujourd'hui, savez-vous quoi? La photo, elle pourrait être exactement la même. Mais on aurait pu la regarder en disant, « Hey, à l'époque, Dieu avait déjà le changement. » La photo, elle peut pas, n'a rien à changer. C'est l'intérieur qui doit être changé. C'est les pensées qui doivent être changées. Aujourd'hui, vous allez vous présenter dans vos maisons, dans vos travails, dans vos endroits respectifs. Vous ne partirez pas d'ici métamorphosé avec une nouvelle coupe de cheveux. Les gens vont voir exactement la même personne, mais dans notre façon de penser, de pardonner, de réagir, de prendre nos décisions. Lorsqu'on s'engage dans une relation amoureuse, est-ce que je pense avec la volonté de Dieu, avec le discernement, avec l'intelligence renouvelée? Ou est-ce que je le fais, comme la première portion du texte dit, influencé par les influences de ce monde? Il met les deux choses en perspective. Il dit, c'est facile en fait. Puis ici, je vais faire attention parce que je vais vous donner ma version de ce texte-là. Le texte ne dit pas que l'influence du monde, c'est une mauvaise influence. Ce n'est pas ça qu'il dit. Il dit, est-ce que vous prenez vos décisions comme des moutons qui suivent un groupe? Parce que quelqu'un l'a fait, on le fait, influencé par ce que la majorité fait? Ou est-ce que tu le fais avec une intelligence renouvelée, un discernement nouveau, où tu as mis ça entre les mains de Dieu et que lui peut t'amener à prendre une décision éclairée? Ou est-ce que tu le fais parce que tout le monde l'a fait? Tu suis la multitude? Ce que l'histoire nous apprend, c'est que la vie chrétienne, que l'histoire de la chrétienté a toujours été à part. Parce qu'on a eu le discernement, parce qu'on a cherché ce qui était la volonté de Dieu. C'est ça que Dieu veut pour nous. Dans Proverbe 2:2, écoutez bien ce que ça dit. « Si tu rends ton oreille attentive à la sagesse, si tu inclines ton cœur à l'intelligence, oui, si tu appelles la sagesse, si tu élèves ta voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent. » Je ne sais pas si vous et moi, on a compris un petit peu c'est quoi l'intensité du texte. Si on enlève la portion « si tu la cherches comme l'argent », il n'y a personne qui lit ce texte-là en disant « waouh, il faut y mettre beaucoup d'attention ». Maintenant, si je vous disais qu'il fallait chercher la sagesse et l'intelligence, au même point que l'argent qu'il vous faut pour payer tout ce que vous avez besoin dans votre semaine, combien croit qu'il faudrait la chercher beaucoup? On y passerait plus de temps, hein? C'est exactement ça que le texte dit. Il dit, si tu prends le temps pour chercher la sagesse et l'intelligence, autant que tu prends du temps pour essayer de subvenir à tes besoins, d'avoir tout ce que tu as en dessous de ton toit, et puis d'avoir tout ce que tu désires avoir, si tu mets autant d'énergie à rechercher la sagesse, écoutez bien la suite, ça dit, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel. Tu comprendras les plans de Dieu. Tu comprendras la volonté de Dieu. C'est ça que le texte dit. Et tu trouveras la connaissance de Dieu. La suite dit, alors tu comprendras la justice, tu comprendras l'équité, tu comprendras la droiture, toutes les routes qui mènent au bien. Car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. La réflexion veillera sur toi. Et l'intelligence te gardera. Ça, c'est ma prière pour moi. C'est ma prière pour moi, pour ma famille, pour mes enfants. C'est ma prière pour mon Église. Que Dieu puisse nous garder à la recherche de l'intelligence. Qu'on ne puisse pas venir avec « Ah oui, non, oh, ça fait peut-être, peu importe, on verra bien. » Mais qu'on soit vraiment dans la recherche de l'intelligence, la recherche de la sagesse. La prise de décision pas à la légère, mais qu'on puisse vraiment remettre toutes choses entre les mains de Dieu pour que justement lui puisse ouvrir nos pensées, ouvrir notre intelligence. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre et puis je vais terminer avec quelque chose. Normalement, je vais avoir un étui. Je n'ai pas de stylo. Une des choses que je fais régulièrement, savez-vous, c'est quoi? Puis je vous fais rentrer dans mon secret. Des to-do list. Est-ce que vous faites des to-do list? Combien font des to-do list? Ça vous arrive? Moi, je fais des to-do list tous les jours. Et elles sont toujours trop longues, d'accord? On n'arrive jamais à la finir. Puis là, tu te dis, ah, j'étais pas bon aujourd'hui. Finalement, tu le remets à la demain. Puis demain, tu en refais encore une trop longue pour pas te dompter, tu sais. Une des choses que je pensais en préparant ce message-là, je me disais, nous, chacun d'entre nous, on est rentré dans l'année 2019 avec une to-do list. Qu'on l'ait écrite ou qu'on ne l'ait pas écrite, on est tous rentrés avec une to-do list. On a écrit sur cette feuille-là, on a écrit les voyages qu'on voudrait faire, amen. Hein? Les nouveaux achats qu'on voulait ou qu'on doit faire. On a écrit aussi... Peut-être nos projets professionnels, on les a écrits sur la to-do list. Puis, on a écrit peut-être des projets familiaux. Peut-être vous êtes ici ce matin, puis vous dites, ah, il me semble 2019, c'est la bonne année pour avoir des enfants. Peut-être 2019, c'est la bonne année pour ne plus avoir d'enfants. Peut-être 2019, c'est une bonne année pour penser au ministère. Puis à faire des choix entre ma vie professionnelle et ma vie ministérielle. Puis ce qui est intéressant, c'est que vous êtes tous rentrés dans 2019, et je m'inclus dedans, avec cette to-do list-là, mais vous avez déjà tous pris une décision. Vous avez tous pris des décisions. On a tous déjà, si c'est écrit sur notre feuille, ça veut dire qu'on a tous déjà pris la décision que c'est ça qu'on veut faire. Mais aujourd'hui, Dieu veut métamorphoser ton intelligence. Puis ça se peut qu'ils veulent métamorphoser ta to-do list. Parce que anciennement, tu prenais des décisions d'une façon. Anciennement, tu réagissais d'une façon. Anciennement, tu parlais d'une façon. Anciennement, tu avais cette attitude qui découlait de tes décisions. Et en 2019, ce que Dieu veut, c'est métamorphoser ton intelligence. Alors, ce que je voudrais faire avec vous, c'est on va faire notre to-do list. Puis on va écrire ma décision, la décision de Dieu. Puis si on laissait pour une fois à Dieu la chance de renouveler notre intelligence. Ça se peut qu'on ait manqué de sagesse dans les dernières années. Ça se peut qu'on ait manqué de discernement sur certaines de nos décisions. Ça se peut qu'on ait garroché des flèches un peu partout pour être sûr de rien manquer, puis finalement, ben, ça ne nous a rien apporté. Et si cette année, on disait à Dieu, hey, voici c'est quoi que moi j'avais en tête, mais j'ai besoin que tu renouvelles mon intelligence. J'ai besoin que tu me donnes le discernement pour comprendre ce qui est bon, ce qui est parfait, ce qui est agréable, pour qu'on puisse rentrer dans ta volonté. Est-ce que ça vous tenterait, ça? Il me semble que moi, ça ferait du sens pour ma vie. Je termine avec un dernier verset. Puis ça va directement avec la to-do list. Moi, si vous me demandiez, Jérémie, est-ce que toutes les décisions que tu as prises depuis que tu as donné ta vie à Jésus, si on disait, OK, on revient en arrière, est-ce que tu reprendrais exactement les mêmes décisions? Est-ce que ça serait exactement pareil? Je vous dirais non. Non pas parce que je suis insatisfait de ma vie aujourd'hui, actuelle, mais non parce que je pense que des fois j'ai manqué de discernement. Non parce que des fois je pense que j'ai manqué de sagesse. J'ai manqué d'intelligence face à certaines situations. Puis aujourd'hui je me dis, je ne veux pas rentrer dans 2019 avec la même intelligence que j'avais en 2018. Je veux que Dieu fasse une métamorphose dans mes pensées. Puis que je puisse discerner sa volonté dans tout ça. Puis savez-vous ce qui est intéressant? Dans Jacques 1, verset 5, ça dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne tout simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. » Vous avez manqué de sagesse avec vos époux? Vous avez manqué de sagesse avec votre famille? Vous avez manqué de sagesse dans votre milieu de travail? Vous avez manqué de sagesse dans l'église? Savez-vous quoi? Dieu, il ne reviendra pas sur 2018 en te disant, « Hey, va te montrer ce que tu n'as pas fait 2018. Va te montrer où tu as manqué de sagesse en 2018. » Il dit, « Non, non, non. » Il le fait sans reproche. Puis il dit, « Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Parce que celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé d'un côté à l'autre. » Ce qu'il dit, en gros, c'est, « Si tu me donnes ta to-do list, ça se peut que je te donne des avenues à prendre. Ça se peut que je te donne des décisions à prendre. Mais si tu me la donnes, ta to-do list, va falloir que tu me fasses confiance puis que tu passes à l'action. Parce que si tu doutes, au moment où je te donnerai la direction, tu vas passer ton année, tu ne vas pas l'aimer. Ça se peut que tu aies des mal de cœur un petit peu. Parce que ça risque de brasser. Puis souvent, savez-vous quoi? Si on est honnête, chacun d'entre nous, les moments où on a peut-être un petit peu eu plus de misère, c'est toutes les fois où, comme cette semaine, sur le terrain de soccer, mon intelligence, elle me disait non, mais que j'ai pris la décision de l'autre intelligence qui n'était pas renouvelée. Pourtant, Dieu, il m'avait donné la sagesse, il m'avait donné la maturité, il m'avait donné ces choses-là. Mais je ne l'ai pas suivi. Est-ce qu'on peut juste se lever ensemble? On va terminer. Je vous invite à fermer vos yeux quelques instants. Les musiciens vont nous conduire dans un chant juste après, mais juste avant d'aller dans ce champ, j'aimerais, de façon individuelle, là où vous êtes, si vous êtes venu en couple, ce n'est pas une décision de couple, c'est une décision individuelle. Le changement ne viendra pas dans le couple si chacun d'entre nous, on n'est pas prêt à avoir un changement dans nos pensées, un changement dans notre intelligence. Le changement ne viendra pas dans notre famille en tant que telle si chacun d'entre nous, on n'a pas un changement personnel dans notre intelligence, dans nos pensées, dans notre façon de réagir. Et ce matin, si tu es ici et que tu penses que 2018 a été loin de ce qu'elle devrait être parce que justement, tes décisions, tes prises de décisions, ta façon d'être n'étaient pas encore renouvelées, que tu demandes à Dieu une métamorphose dans tes pensées. Si tu veux que Dieu vienne métamorphoser ta vie en prenant possession de tes pensées et puis t'amener à réfléchir différemment, à pardonner différemment, à parler différemment. Si tu es ici et que tu veux cette métamorphose-là, juste lever ta main, pas vers moi, vers Dieu. Juste dire, Seigneur, ce matin, on réclame une métamorphose. Amen. Alléluia. Oui. Oui. Encore quelques instants, si tu veux que Dieu vienne métamorphoser, juste prendre possession de tes pensées, possession de ton intelligence, juste là où tu es, juste levons nos mains vers Dieu. Père éternel, merci. Merci Seigneur parce que tu ne fais pas de reproches. Merci parce que tu es gracieux. Merci parce que tu es plein d'amour. Merci Seigneur parce que aussi tu sais, Seigneur, nous reprendre avec douceur. Seigneur, on veut te prier, comme ce texte le dit, on veut te prier pour ta volonté, Seigneur. On veut te prier pour le discernement de ta volonté. On veut te prier pour le discernement de ce qui est bon pour ton Église, ce qui est bon, Seigneur, pour nos vies personnelles, ce qui est bon, Seigneur, pour nos familles, pour nos enfants, pour nos milieux de travail, Seigneur. On veut te prier, Seigneur, que tu puisses nous donner ce discernement-là en métamorphosant nos pensées. Que, Seigneur, on puisse changer, Seigneur, de façon de réfléchir, de façon de prendre nos décisions. Qu'on puisse, Seigneur, ne plus être influencé par l'extérieur, par les personnes qui nous entourent, les gens qui sont là, mais qu'on puisse vraiment te remettre toutes choses. Afin que tu puisses nous aider à avoir ce discernement-là et l'intelligence nécessaire. Merci Père. Merci Père pour ce que tu as commencé à opérer ce matin dans la vie de plusieurs. Merci pour les appels que tu places. Merci pour toutes ces choses, Seigneur, qu'on peut te remettre afin que tu métamorphoses nos vies. C'est dans le nom de Jésus qu'on t'a prié. Amen. Pendant quelques instants, alors qu'on prie, alors que vous remettez à Dieu peut-être ces situations plus spécifiques que vous avez eues à cœur, alors qu'on priait, juste commençons juste à louer Dieu avec ce chant. Terminons avec juste ce chant avec